retrouver toutes les émissions sur franca-on-r.fr. Vous nous écoutez sur Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants.
Bonjour à tous, je m'appelle Bastien et c'est moi qui présente cette émission aujourd'hui. Notre petit groupe a choisi de vous instruire, de vous informer, de vous distraire. Le thème choisi par notre équipe est celui des animaux. Et voici le sommaire de notre émission. Je vais vous parler d'animaux en voie de disparition. Ensuite, Noah présentera son sujet sur les animaux rares et étranges. Emma a travaillé sur le Numbat. Quant à Alexia, elle a choisi de parler du manchot. Puis ce sera au tour de Gloria d'intervenir sur le thème des animaux les plus intelligents. Enfin, Corentin terminera avec un sujet sur le marin. Bonjour, je suis Bastien. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du Napoléon, de dauphin de l'Irrawaddy, sans oublier la tortue à nez de cochon, qui sont tous dans le top 10 des 10 animaux en voie de disparition. Le Napoléon, aussi appelé l'arbre géant, habitant dans le Pacifique ou en Asie, est très recherché pour sa viande. $150 le kilo. Il ne reste plus que 320 000 spécimens dans le monde. Le dauphin de l'Irrawaddy, lui, est très difficile à apercevoir, car sa population est à 1000 individus depuis 2004. On peut le trouver dans le nord de l'Australie. Il a disparu à cause des filets de pêche et on le capture pour les eaux, où il ne peut pas se reproduire. La tortue à nez de cochon, tortue d'eau géante qui vit en Chine et en Indonésie. Elle est très recherchée pour sa chair et comme animal de compagnie. Les petites tortues sont vendues très cher dans les rues d'Asie. Inutile de vous dire que ces espèces doivent être protégées si l'on ne veut pas les voir disparaître complètement de notre planète.
Bonjour, je m'appelle Noah. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du top 6 des animaux les plus rares et étranges. En premier lieu, l'étrange axolote. L'axolote est l'un des seuls animaux à pouvoir vivre toute sa vie à l'état larvaire et à se reproduire dans ce dernier. Le second animal étrange est le haï-haï. Le haï-haï est un primate vivant à Madagascar. Ses incisives rappellent celles des rongeurs, ses oreilles celles de chauves-souris et sa queue celle d'un écureuil. En troisième position, le blobfish. Derrière le charme de ce magnifique spécimen se cache un poisson bien solitaire. On peut trouver ce dernier dans les abysses entre 600 et 1200 mètres. Notre quatrième spécimen est la pieuvre Dumbo. Appelée de cette façon car, ressemblant à la patte d'un éléphant, cette créature géante vit également dans les abysses de nos océans à des profondeurs extrêmes, entre 500 et 4000 mètres. L'avant-dernière créature est la salamandre chinoise géante. C'est le plus gros amphibien vivant du monde. Il ferait 1,80 m de longueur et pèse jusqu'à 65 kg. Enfin, le sixième animal rare et étrange est le requin lutin. Également appelé requin gobelin, ce rare spécimen vit entre 30 et 1300 mètres de profondeur. Il peut mesurer jusqu'à 3,85 m de longueur.
Bonjour, je m'appelle Emma et aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du Numbat, aussi appelé fourmilier marsupial. Mais pourquoi dit-on que c'est un fourmilier ? Bah parce qu'avec sa longue langue fine et collante de moins de 10 cm, il peut se permettre d'attraper plusieurs termites et fourmis en même temps. Et il en avale des milliers par jour. Le Numbat se réfugie dans un terrier le jour pour se protéger de ses prédateurs comme le dingo, le renard et l'aigle. La femelle porte ses petits dans sa boule de poils accrochée à son ventre. Elle peut en transporter seulement 4. Au bout de 6 mois, les petits se décrochent. Le Numbat mesure de 18 à 30 cm et sa queue de 12 ou 20 cm. Il pèse de 300 à 750 grammes et il vit dans les forêts d'eucalyptus en Australie. Il ne reste plus que 1000 numbats dans la nature à cause de la déforestation. Il vit environ 5 ans en liberté et de 7 à 11 ans en captivité. Par exemple, le petit Frankie, un numbat mâle âgé d'environ 6 mois. Le jeune numbat a perdu sa mère et a été recueilli par des vétérinaires. Et il se sent beaucoup mieux.
Bonjour, je m'appelle Alexia. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manchot qui s'est échappé d'un zoo à Tokyo. Ce manchot a franchi un mur deux fois plus haut que lui. Il a été vu plusieurs fois dans des rivières de la ville, où il se nourrissait de poissons. Il a été capturé deux mois plus tard. Il avait souffert de la pollution et a eu besoin de soins. Le terme manchot désigne des oiseaux marins qui vivent dans l'hémisphère sud. Et on peut les retrouver particulièrement en Antarctique. C'est un oiseau qui ne vole pas, mais la forme de ses ailes en fait un excellent nageur. Le manchot empereur est beaucoup plus grand que le pingouin. Il mesure au moins 1,30 m et peut peser jusqu'à 40 kg. D'autres sortes de manchots, comme le manchot pygmée, ne mesurent que 40 cm.
Je m'appelle Gloria, je vais vous parler de l'intelligence animale. Plusieurs espèces ont une grande capacité de réflexion et ce ne sont peut-être pas celles que vous croyez. J'en ai choisi trois. Le premier est le grand dauphin de l'océan Indien. Curieux, brillant et social, il a développé l'usage d'un outil pour observer les fonds marins en quête de nourriture. Il place des éponges marines sur son nez sensible pour se protéger des blessures lorsqu'il fouille le sol. Le second est l'orang-outan. Il peut utiliser et même parfois créer divers outils pour s'aider à se nourrir. Il est aussi capable d'apprendre des dizaines de mots et de communiquer avec ceux-ci. Le dernier est le rat, mal aimé des humains, mais très débrouillard, doté d'une excellente mémoire. Il peut se rappeler des divers chemins et parcours qu'il emprunte.
Bonjour, je m'appelle Corentin. Aujourd'hui, je vais vous parler du marat. On ne parle pas ici des fraises, mais d'une espèce de rongeur. Le marat est le troisième plus gros rongeur du monde, et pourtant, on ne le connaît pas très bien. Il n'est pas rare de le confondre avec un lièvre, voire avec un kangourou. On l'appelle aussi lièvre de Pentangoni. Il sait bondir jusqu'à 2 mètres de hauteur et peut sprinter à plus de 55 km/h. Il mesure entre 70 et 75 cm et pèse de 8 à 16 kg. Son espérance de vie est de 10 à 15 ans selon les individus. Cet animal est naturellement présent en Argentine et il est exclusivement herbivore. Actif pendant la journée, cette espèce passe de longues périodes d'exposition au soleil, se repose sur les hanches avec ses pattes avant repliées sous son corps comme un chat. C'est un animal très sociable, pouvant vivre en groupe de 10 à 30 individus. Vous plaît-il ? Il a un physique un peu inhabituel pour un rongeur, non ? Non ?
Let's go! Aye! Oh! Let's go! Aye! Oh!
Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants. Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Bonjour à tous, je m'appelle Kylian et c'est moi qui présente cette émission aujourd'hui. Notre petit groupe a choisi de vous instruire, de vous informer et de vous distraire. Le thème choisi par notre équipe est celui de l'histoire et la géographie. Et voici le sommaire de notre émission. Je vais vous parler de deux des 20 merveilles qu'il faut voir dans le monde. Ensuite, Roman présentera son sujet sur la peste de 1666. Iliane a travaillé sur le Brésil. Quant à Tom, il a choisi de parler de Christophe Colomb. Puis ce sera au tour de Nathan d'invertir sur le thème du chocolat. Enfin, Léana terminera avec un sujet sur les hiéroglyphes. Bonjour, je m'appelle Kylian. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux des 20 merveilles qu'il faut voir dans sa vie. Tout d'abord, le désert de Black Rock aux États-Unis. Un geyser au milieu d'un grand rien. Trois grands jets d'eau bouillonnantes pointés vers le ciel. Des couleurs flamboyantes venues des profondeurs. Mais pourquoi se trouve-t-il ici? Il vaut le détour. En 1880, alors qu'il forait le sol à la recherche d'eau potable, un propriétaire d'un ranch a par hasard atteint une nappe d'eau imbuvable et bouillante. La seconde merveille dont j'ai choisi de vous parler est la chaussée des géants en Irlande. Constituée de 40 000 colonnes de lave solidifiée, selon une légende irlandaise, ces colonnes pharaoniques plongeant dans les flots sont des ruines d'un pont qui autrefois enjambait la mer jusqu'en Écosse. Un géant nommé Finn McCool l'aurait édifié pour aller botter les fesses d'un congénère. Pendant des siècles, la régularité de cette formation a laissé les hommes perplexes. Ce n'est qu'en 1771 qu'un géologue français découvrit leur véritable origine. Elle avait été bâtie par un tout autre géant, un volcan, il y a 60 millions d'années. Une coulée de lave épaisse de plusieurs dizaines de mètres recouvrait le secteur et les colonnes se formèrent.
Bonjour, je m'appelle Roman. Je vais vous parler de la Grande Peste de Londres. Un sujet sérieux, non? En 1665, la capitale anglaise fut ravagée par une épidémie de peste bubonique qui fit environ 75 000 morts, peut-être même 100 000, soit environ 20% de sa population. On pense que la maladie fut apportée par des bateaux en provenance des Pays-Bas en 1664. La fraîcheur de l'hiver empêcha l'expansion de la maladie. Cependant, le printemps et l'été 1665 furent très chauds, et c'est là que la peste décima la majeure partie de ses victimes. À la fin du mois d'août, on pouvait compter jusqu'à 6000 morts par semaine. À première vue, on pourrait penser qu'une épidémie ferait moins de victimes aujourd'hui, mais les bactéries évoluent. Par exemple, elles développent une résistance aux médicaments et mutent pour avoir de nouveaux symptômes. De plus, grâce à la technologie, on peut aujourd'hui se déplacer plus vite et plus loin. Et du coup, les maladies aussi. Alors, soyez prudents lors de vos voyages et dans votre quotidien.
Bonjour, je m'appelle Iliane. Je vais vous parler du plus grand atout du Brésil. Les Brésiliens eux-mêmes. Foot, carnaval, samba. Pourquoi les clichés sur le Brésil ont-ils la vie si dure? Parce que le Brésil les met en avant, notamment pour attirer les touristes. J'ai voulu saisir l'occasion d'aller un peu plus loin. Pourquoi sa population est-elle le plus grand atout du Brésil? En allant au Brésil, on est frappé par l'énergie des gens et leur joie de vivre. Le Brésil est la plus grande nation d'Amérique du Sud. La population se concentre dans la partie côtière du pays. 84% des Brésiliens habitent en ville. L'intérieur des terres lui faiblement peuplé. La plupart des Brésiliens descendent des colons portugais installés dès le XVIe siècle et d'Africains victimes de l'esclavage. La population se caractérise aujourd'hui par un fort métissage. Le portugais est la langue officielle, une exception en Amérique du Sud majoritairement hispanophone. Il existe aussi au Brésil environ 180 langues indigènes. Enfin, le Brésil est le seul pays à avoir remporté 5 fois la Coupe du Monde de foot. Son joueur le plus célèbre, Pelé, est considéré comme le meilleur footballeur de tous les temps. C'est le seul pays à avoir été champion du monde à trois reprises de suite, en 1958, 1962 et 1970. Ça donne envie d'y aller, non ?
Bonjour, je m'appelle Tom. Je vais vous parler d'un grand voyageur, Christophe Colomb. Il n'a vécu que pour cet instant où il aperçut la Terre depuis son départ d'Espagne le 3 août 1492, à la tête de 3 navires et 220 hommes. Son but, rallier l'Asie par l'Ouest. Une idée folle, surtout avec un équipage de fortune composé en partie de criminels. On leur avait laissé le choix, ce voyage ou la prison. Pour calmer leurs inquiétudes, Colomb montait sur les distances parcourues. Mais les jours passaient, les vivres se réduisaient, et toujours aucun continent sur l'immensité bleue. La rébellion s'annonçait, jusqu'à ce qu'enfin, la terre se dessine. Mais au petit matin, elle avait disparu, et le navire n'était entouré que d'eau. Colomb a alors empoigné une longue vue, rien, ce n'était qu'un nuage, il s'est dissipé. Murmure découragé un marin. L'amiral essayait de ne pas montrer sa déception. 16 longues journées plus tard, le même cri retentit dans la nuit. Terre, terre ! Cette fois, ce n'était pas un mirage. Mais Colomb n'avait pas atteint l'Asie. Il venait de découvrir l'Amérique. Le hasard a fait de lui un voyageur de légende.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Nathan. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'histoire du chocolat. Le chocolat a été inventé 1500 ans avant Jésus-Christ. C'est en Amérique du Sud que commence l'histoire du chocolat. Le cacaoyer y pousse à l'état sauvage et les Indiens Mayas et Aztèques en savourent déjà les fèves. Pour eux, pas de doute, un arbre qui donne des fruits au goût si somptueux et si fort est forcément un cadeau des dieux. En 1529, le navigateur Hernán Cortés est le premier à ramener des fèves de cacao en Espagne. Quelques années plus tard, les Européens ont une idée de génie, remplacer le piment par le sucre. Le succès du chocolat est immédiat. Il fera alors son entrée dans les cours royales. Au XIXe siècle, le prix du sucre et du cacao baisse. Le chocolat devient accessible à tous. Le français Jules Parès ouvre sa première fabrique de chocolat dans le sud de la France, les Chocolats C'est Moi, en 1814. Et la marque Mars lancera sa première barre chocolatée dans les années 1920. Un succès. Aujourd'hui, le chocolat est partout. Au lait, c'est la boisson préférée des enfants, ou bien alors au petit déjeuner avec du pain.
Bonjour, je me présente. Je suis Léana. Aujourd'hui, je vais vous parler des hiéroglyphes. Dans quel sens faut-il les lire ? Par exemple, les hiéroglyphes étaient écrits indifféremment, de gauche à droite ou de droite à gauche. Pour savoir comment les lire, il faut observer les signes qui représentent des hommes ou des animaux. Ils regardent toujours vers le début de la ligne. Si plusieurs signes se superposent, la lecture se fait alors de haut en bas. Le sais-tu ? Les civilisations Maya et Hittite possédaient aussi une écriture hiéroglyphique. Mais alors, comment écrit-on les hiéroglyphes avec trois catégories de signes? Des idéogrammes, des phonogrammes et des déterminatifs. Les déterminatifs ne se prononcent pas, mais précisent le sens des mots. Ainsi, le dessin d'un faucon indique que l'on fait référence à une divinité. Les phonogrammes sont des signes qui correspondent à un son, un peu comme dans un rébus. Les idéogrammes sont des dessins simplifiés qui désignent l'objet dont ils sont l'image. Être humain, animaux, outils. J'espère que vous en savez plus à présent. Yeah.
suddenly you butter and they wanna catch a dream. Obviously all in a tension. Crawl from the cracks till you're selling out Olympia. Please be cool to the death and a few that spread true love and effect. I-O-N and the lie all ends then. Stay up others and you ain't coming in. Mumbling something in my head about two. We should roll together. Fair weather it's breaking news. Extra, see through the texture, peek when the vectors align like a star sign. See what you find in the constellations, aware that we're merely oscillating. Molecules in solitude, contemplating about our food, fuel, and our social status. Lay the rulers down, rulers out, bring the loot around for the coup de grace. With the sound, the villain is killing. Are you big enough the drinks we share? From the mouth on the illest rounds, glitter, go glitter, ain't shit, evidently friend. So what you think we have is an illusion. We ain't never pinky swear to when booze it, never skip through the land. Hand in hand, the attitude to back, but kept bruising, breaking news.
Radio Franca, c'est la radio des enfants. Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Bonjour à tous, je m'appelle Inaya et c'est moi qui présente cette émission aujourd'hui. Notre petit groupe a choisi de vous instruire, de vous informer, de vous distraire. Le thème choisi par notre équipe est celui des personnages célèbres. Et voici le sommaire de notre émission. Je vais vous parler de Albert Einstein. Ensuite, Cyrine présentera son sujet sur Mozart. Raphaël G a travaillé sur le roi Arthur. Quant à Raphaël TB, il a choisi de parler de Charlemagne. Enfin, Noah terminera avec un sujet sur le chanteur Renaud. Bonjour, je m'appelle Inaya, je vais vous parler du cerveau d'Einstein. Le génie à la crinière blanche est mort un 18 avril d'une rupture d'anévrisme à l'âge de 76 ans, laissant au monde une équation à une inconnue, celle de son intelligence. Son cerveau est le seul organe qui ait été conservé pour répondre à cette ultime énigme de la science. Thomas Harvey, médecin à Princeton, pèse la prestigieuse cervelle 1,230 kg, un poids tout juste moyen. Harvey prend ensuite une série de clichés puis découpe se concentrer dans du formol et se fait oublier pendant près de 30 ans. En 1978, Stephen Levy, un jeune journaliste persévérant, a retrouvé la trace du précieux bocal. Une équipe de l'université de Berkeley y jette alors un œil. Le génial Albert n'a rien de très original dans le crâne. Dernier rebondissement dans les années 1990. On finit par trouver au cerveau d'Einstein une extraordinaire malformation, non seulement elle ne cause aucun handicap, mais elle lui a permis de devenir l'un des plus grands savants de l'histoire.
Bonjour, je m'appelle Cyrine. Aujourd'hui, je vais vous parler du secret qui hantait Mozart. Un jour, en 1791, un cavalier vêtu de noir et au visage dissimulé vient demander à Mozart de composer un morceau. Ce sera la dernière œuvre du compositeur. Qui était donc ce cavalier et quel secret cachait-il ? Une nuit d'été, trois coups secs sont frappés à la porte. Mozart ouvre et devant lui apparaît un homme grand, sec, drapé de noir, le visage camouflé par une lourde capuche, et il parle avec une voix caverneuse. Serait-il possible que le grand Mozart compose une messe des morts pour mon maître ? Le mystérieux messager lui a proposé 3000 florins, une petite fortune, mais une pénible exigence accompagne le contrat qu'il lui propose. Mozart ne devra jamais révéler qu'il a écrit cette œuvre. Un autre prétendra en être l'auteur. Le 5 décembre 1791, Mozart s'éteint en fredonnant dans un souffle. Un passage de sa dernière œuvre, cette musique est le chant d'un homme condamné. Mais Mozart est là, l'artiste de génie a mis dans ses requiems sa dernière étincelle de vie et cette œuvre lui a été finalement rendue.
Bonjour, je m'appelle Raphaël Giacometti. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du roi Arthur a-t-il vraiment existé ? Le roi Arthur est un personnage légendaire qui donne à son nom à la légende arthurienne. Mais le personnage est sans doute inspiré d'un ou plusieurs chefs bretons
ayant réellement existé. Le roi Arthur aurait vécu de 475 à 537. Ses parents sont Uther Pendragon et Ygran de Cornouailles. Arthur est confié à la naissance à Merlin, qui exige ce don en paiement de ses services. Merlin va élever Arthur comme un chevalier. À l'époque d'Arthur, l'ancienne Bretagne romaine est envahie par des peuples germaniques, les Angles et les Saxons. À la mort d'Uther Pendragon, la succession se révèle un problème difficile, car il n'a pas de fils légitime. Mais à la sortie de la messe, après l'enterrement, on découvre sur le parvis de la cathédrale une épée, Excalibur, enfoncée dans une enclume et un roc. On peut y lire une inscription, selon laquelle seul le roi légitime pourra arracher l'épée de la pierre. De nombreux chevaliers tentent l'épreuve, mais Excalibur reste à sa place. Ce n'est que plusieurs années après qu'un adolescent parvient à l'extraire, c'est Arthur. Le dernier combat du roi Arthur fut à la bataille de Camlann contre les forces de Mordred. Arthur fut mortellement blessé. Mordred était le fils du roi Arthur et de sa demi-sœur Morgane. Merlin avait prédit la naissance de celui-ci. Le roi Arthur avait voulu se débarrasser de cet enfant sans parvenir à le faire parce qu'il s'agissait de son fils.
Bonjour, je m'appelle Raphaël. Aujourd'hui, je vais vous parler de Charlemagne. À quoi ressemblait-il exactement ? Charles est le fils de Pépin le Bref. À vrai dire, dans sa famille, on l'appelle Karl, car on y parle plus volontiers la langue germanique des Francs que le latin. Mais c'est en latin que Charles a été baptisé sous le nom de Carolus, qui aurait pu prévoir ce jour-là qu'il deviendrait Carolus Magnus, autrement dit Charlemagne, et qu'il fonderait une dynastie, les Carolingiens. Il n'est pas homme à paraisser au lit, il est très grand, au moins 1m90, ses épaules sont celles d'un athlète, il n'a pas de barbe, le front est droit et le nez long, ses cheveux sont courts et dorus, son cou est large, on lui voit même une tendance à l'embonpoint, ce qui ne nous étonne pas quand on connaît son menu habituel, 5 plats par repas. Sa préférence va à la viande rôtie, celle du cerf ou du chevreuil gibier qu'il chasse lui-même à cheval en compagnie de molosses qui n'ont peur de rien et d'une armée de rabatteurs munis de filets. Charles le Grand deviendra empereur et règnera 46 ans sur l'Occident. Il meurt en 814 à l'âge de 72 ans. Pas mal pour l'époque, non ?
Bonjour, je m'appelle Noah. J'ai choisi de vous parler de Renaud, car nous sommes tristes. En effet, il ne va pas très bien ces derniers temps, et il est important de penser à lui. Renaud Séchan est né le 11 mai 1952 à Paris. C'est un auteur, compositeur, interprète français, avec 23 albums totalisant quasiment 20 millions d'exemplaires vendus. Renaud est l'un des chanteurs les plus connus dans la francophonie, avec ses chansons où il n'hésite pas à utiliser l'argot. Il aborde des thèmes aussi bien légers que graves, et qui alterne entre humour, émotion et critique sociale. J'aime beaucoup Marche à l'ombre. Renaud a créé cette chanson pour un film. Mais ma préférée est Mistral gagnant. En 4 décennies de carrière, Renaud a enchaîné les tubes, mais ses standards indémodables datent en grande partie des années 70 et 80 et de ses 3 premiers albums. Mistral gagnant a été créé en 1985. Écrite pour sa fille Lolita, cette chanson fait référence à une confiserie disparue, mais rappelle la mélancolie de Renaud pour ses souvenirs d'enfance. C'est sans doute la chanson la plus connue et la plus reprise de Renaud. En mai 2015, elle a été élue chanson préférée des Français devant « Ne me quitte pas » de Jacques Brel et « L'aigle noir » de Barbara.